maintenant, c'est là qu'il regrette. Et faites gaffe parce que je connais les signes précurseurs. Donc, si je vous vois commencer à vous endormir, je vous dénonce, hein? D'accord? Ça se voit très très. Ça... Celui-là, c'est fini? J'ai déjà fini celui-là? Bon, c'est bon maintenant. Ah, ça y est, voilà, l'autre marche. Ok. Donc, ça se voit très bien quand quelqu'un est en train de s'endormir. Ça se voit parce que il a d'abord l'apparence d'une très grande concentration. Mais c'est un leurre. C'est l'état de subsommeil. Donc, quand j'en vois l'un d'entre vous qui s'est bien calé, en général, il croise les bras. Ouais. C'est pas toujours, mais il semble que ça aide. Donc, il croise les bras et il me regarde d'un air très, très attentif, comme ça, et un peu fixement. Je sais qu'il lui reste 3 minutes 25 avant de dormir. Donc, surveillez-vous les uns les autres. Hein? De temps en temps, vous regardez votre voisin à gauche, à droite, pour faire bien attention. Une fois, j'étais dans une réunion comme ça, et mon voisin à gauche s'était endormi, mais alors il dormait profondément, ça m'a fait un peu rigoler, quoi. Donc, je pousse mon voisin de droite du coude, je lui dis, mon voisin de gauche, il dort complètement. Et le gars à droite me dit, et c'est pour me dire ça que tu me réveilles. Voilà, bon. Donc, c'était une réunion de réveil. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé ce matin déjà. Alors, est-ce qu'on peut passer un petit clip? Non, c'est pas sûr. Hein. Non, c'est pas sûr. Voilà. Donc, on peut pas. Et donc, on avait parlé déjà un peu de l'esprit d'équipe, hein, le travail en équipe. Hein, et j'aimerais juste, ça m'est revenu une petite anecdote. Hein. En terminant, j'étais une fois dans une église, une œuvre où... Le responsable de l'œuvre, hein, me disait, alors il était très conscient du leadership qui doit être vraiment un leadership fort, mais à mon sens, avec beaucoup d'excès dans cette fonction qui pour lui finissait par exclure, hein, une véritable équipe. Et il m'a dit, moi, Dieu m'a donné une vision. Et donc, je dois travailler à accomplir cette vision. Et tous ceux qui travaillent avec moi dans mon équipe doivent travailler pour cette vision que j'ai reçue. S'ils ne travaillent pas pour cette vision, alors il vaut mieux qu'ils s'en aillent. Et cette façon de l'exprimer est en tout cas fautive. La notion de leadership ne devient pas quelque chose qui exclut les autres. Hein. Même en tant que leader, on reste aussi chacun, un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur, à part égale. Quand Samuel Peter Schmidt parle de ça, il dit la chose très différemment. Il dit, Dieu m'a donné une vision pour ma vie et je veux remplir la vision que Dieu m'a donnée pour ma vie. Mais, dit-il, je sais que Dieu a donné aussi à chacun de mes collaborateurs une vision aussi pour leur vie et je fais tout mon possible pour les aider à réussir dans leur vision. Et c'est quelque chose de tout à fait différent. Le leadership n'est pas une place qui supprime les autres ou qui les met sous les ténoirs ou qui les dévalorise. C'est une fonction comme d'autres fonctions. Et ça, c'est un respect de savoir travailler. Le leader a le respect des gens qui travaillent aussi avec lui, comme dans l'autre sens et comme horizontalement, on doit trouver un véritable respect au sein de l'équipe. J'aimerais juste lire avec vous 1 Samuel 23, 15 à 18. C'est un épisode qui concerne bien sûr, la vie de David. Et si on avait le temps, on aurait pu parler abondamment de David parce que dès qu'on parle de leadership, c'est son exemple, d'ailleurs en bien et en moins bien, hein, est très, très, très instructif. Mais David a fait énormément de bêtises, hein, au niveau leadership. C'est un leader charismatique mais quelquefois agissant de manière très émotionnelle et faisant des fois des bêtises. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler tout de suite. Samuel 23, les versets 15 à 18, c'est pendant la période où David était encore en fuite à cause de Saül et avant qu'il ne devienne effectivement roi. David, verset 15, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Et ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Donc Jonathan fortifia sa confiance en Dieu et il dit à David, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu règneras sur Israël et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Voilà un exemple extrêmement rare dans la Bible, peut-être même unique, à part l'exemple de Moïse qui a renoncé à son rôle de prince. Mais voilà un exemple rarissime de quelqu'un qui peut prétendre à une haute place et qui y renonce volontairement parce qu'il sait que Dieu ne lui a pas attribué à lui, mais l'a attribué à quelqu'un d'autre. Et l'histoire de cet exemple de Jonathan est un exemple extrêmement intéressant et rarissime. Jonathan, en tant que fils de Saül, qui à ce moment-là était le roi, Jonathan est tout naturellement peut être considéré comme le futur roi. C'est lui qui est le principal, le premier et même le seul qui puisse briguer la royauté sur Israël. Or, il vient trouver David qui est en fuite, qui est à ce moment-là un exilé, et Jonathan lui dit clairement, lui dit, je sais que tu seras roi. Ça vient de Dieu, je sais que tu seras roi et moi, je serai le second derrière toi. Jonathan renonce à sa place parce qu'il sait quel est son appel, quelles sont ses limitations, qu'est-ce que Dieu a fait de lui et de lui-même, il le dit. Et ça, je trouve que, comme exemple, c'est tout à fait exceptionnel. Il y a à peu près que l'exemple de Moïse qui était élevé à la cour de Pharaon et Moïse a su que son rôle n'était pas d'être un prince en Égypte et Moïse a renoncé volontairement aussi tout à fait à ce rôle pour devenir simplement un esclave parmi un peuple d'esclaves. Mais est-ce que vous savez, vous rappelez comment c'est terminé, cette proposition de Jonathan, est-ce qu'elle s'est accomplie? Elle ne s'est pas accomplie. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas accomplie? Parce que Jonathan est mort. Au moment où David allait devenir effectivement roi de fait sur Israël, eh bien, dans une guerre que menait Saül contre les Philistins, eh bien, non seulement Saül est mort, mais ses fils sont morts et Jonathan est mort aussi, ce qui fait que la semaine suivante, David devenait effectivement roi d'Israël, mais Jonathan n'était pas là pour le seconder, comme lui-même l'avait pourtant proposé. Et cette histoire fait réfléchir. On se dit, mais quel dommage que Jonathan n'ait justement pas été là pour faire équipe avec David, parce que tous les deux auraient fait une équipe extraordinaire. Et si Jonathan avait été vivant à ce moment-là, alors on aurait évité une période de 7 ans pendant laquelle David n'a pu être d'abord roi que sur la seule tribu de Juda et il n'a pas pu l'être sur le reste du peuple parce que le reste du peuple a été conduit par un autre descendant de Saül qui les a empêchés de se soumettre réellement à David. Et pendant ces années-là, il y a encore eu des morts, il y a encore eu des batailles entre les deux. Et si Jonathan avait été vivant, Jonathan lui-même, avec son cœur et avec son charisme, aurait gagné le reste des tribus à se soumettre aussi à David et on aurait évité tout ça. Donc on peut dire, bon, je vais dire entre guillemets, c'est pas de chance, il est mort au mauvais moment. Mais il est mort au mauvais moment parce qu'il est mort sur un mauvais terrain. Et on pourrait se dire, hein, mais est-ce que c'était juste que Jonathan meure dans cette bataille? Qu'est-ce que Jonathan faisait dans cette guerre contre les Philistins qui était perdue d'avance? Et Jonathan aurait été plus inspiré si, au lieu, quand il a fait cette alliance avec David, au lieu de rester dans cette alliance avec David et de retourner ensuite chez son père, si Jonathan avait dit « Je renonce à la vie, à la cour de Saül ». Si Jonathan avait tiré les leçons jusqu'au bout de la position qu'il venait de prendre, alors il aurait choisi l'exil volontaire comme David l'a choisi, comme Moïse l'a choisi, et Jonathan aurait été vivant au bon moment. Il n'aurait pas été impliqué dans une guerre qui spirituellement était perdue d'avance. Alors évidemment, on va dire, oui, mais attendez, décider de rentrer dans la clandestinité, prendre le maquis, voilà, ça c'est une décision difficile, courageuse, et c'est une décision qui impliquait forcément toute sa famille, parce que dans l'état où était Saül, qui était un fou paranoïaque, hein, si Jonathan avait choisi de le quitter pour rejoindre David, Jonathan aurait dû partir aussi avec toute sa parenté, parce que Saül les aurait tous tués. Alors c'est évident que c'est un choix facile, mais pardon, mais c'est un choix qui lui aurait fait gagner sa vie et qui aurait non seulement fait gagner sa vie à lui, mais qui aurait fait gagner sa vie à des milliers de gens qui sont morts des suites de son absence au bon moment. Donc, je dirais que Jonathan, dans son cœur, je ne le suspecte de rien de mauvais, c'est un homme d'une très grande valeur, hein, un homme formidable, mais sur ce point, je pense qu'il n'a pas été au bout de sa démarche. Il n'a pas lui-même appliqué ce que pourtant il a clairement dit. Il a dit, je serai avec toi, je te seconderai, je serai ton second, je vais rester avec toi. Alors il fallait le faire. Parce que comment les choses pouvaient se terminer pour qu'il puisse être le second de David? Il fallait forcément que Saül meure. Donc qu'est-ce qu'il espérait? Que Saül allait vivre, je ne sais pas quoi, jusqu'à centenaire, et que lui-même il serait déjà à l'âge de la retraite dépassé? Ou dans une guerre? Mais si c'est dans une guerre, lui il est dans la guerre avec. Donc il n'y avait pas de solution. Vous voyez? Alors, ceci pour dire que nos choix de fonction, nos choix d'équipe sont bien sûr les choix que Dieu a fait pour nous, c'est les choix auxquels Dieu nous appelle, mais ce sont des choix qui peuvent aussi nous amener à des prises de position difficiles. Nous pouvons être amenés à faire des choix qui sont des sacrifices. Quand Samuel m'a demandé de rejoindre l'église de Mulhouse pour m'occuper d'un département formation biblique, eh bien, si vous voulez, quelque part au fond de moi, ma chair me pose des questions. Ma chair me dit, Jean-Marie, si tu vas là-bas, tu vas être le numéro combien? Non, mais parlons clair. Alors, si je suis intéressé par le fait d'être le premier en quelque chose, c'est sûr que je n'irai pas. C'est sûr que je peux préférer d'autres propositions qu'on m'a faites pour prendre une église et être dans une église, certes une église plus petite, une église, voilà, mais une église où je serais, moi, le, voilà. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux? Être quelque part en numéro 1 ou être en numéro 2 ou 5, 12, 50 ou quoi? Et qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce qui est important, est-ce que c'est des questions de primauté où ce qui est important, c'est d'être à l'endroit que Dieu veut et surtout de faire ce que Dieu nous demande. Il y a des questions. Les footballeurs sont devant des choix comme ça difficiles. Quelquefois, un très bon footballeur, voilà qu'on le demande pour faire partie d'une grande équipe. Mais quand il part dans une grande équipe, il sait que dans cette grande équipe, il risque d'être sur le terrain une fois de temps en temps. Parce qu'en réalité, il n'est pas forcément le titulaire directement du poste. Donc, il va être sur le terrain une fois de temps en temps. Et une fois de temps en temps, il a les 20 dernières minutes du match pour prouver pourquoi il est là. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas ça. Ils disent, je préfère être dans une équipe de moindre valeur, mais je préfère jouer tous les matchs. Mais ça, c'est des choix. Qu'est-ce qui est le mieux? J'en sais rien en football, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que devant Dieu, ces questions-là doivent être résolues dans nos cœurs. Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mes priorités? Qu'est-ce qui m'intéresse? Quels sont mes vrais moteurs? Quels sont mes vrais moteurs? Vous rappelez qu'un jour, Moïse était, je peux vous rappeler de cette histoire, on n'est pas obligé de tout lire, mais Moïse, un jour, était un peu fatigué. C'est-à-dire qu'il en avait jusque-là, parce que conduire un peuple comme ça, c'était un peu fatigant. À un moment, Moïse en avait marre. Alors, il a dit à Dieu, oh non, c'est trop fatigant, j'en peux plus. Dieu lui dit, attends, je vais t'encourager un petit coup. Donc, fais-moi une liste de 70 anciens, et puis je vais prendre de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Alors, Moïse a fait une liste, et donc la liste des principaux. Alors, quand il a fait cette liste, c'est une liste de 70. Dieu a dit 70. 70, ce n'est pas 69 ou 71, c'est 70. Donc, quand Moïse a fait la liste et qu'un jour, il a lu, il a dit, voilà une liste de ceux que Dieu va prendre pour prendre de l'esprit qui est sur moi pour mettre sur eux. Bon, bien sûr, tout le monde écoute la liste. Alors, il y a des gens qui écoutent de manière, et ils sont pas forcément intéressés parce qu'ils n'ont jamais supposé qu'ils seraient sur la liste. Mais tous ceux qui peuvent supposer qu'ils pourraient être sur la liste, écoutent avec une grande attention. Alors, on passe les 1, 2, 3, 4, 5. Bon, certains se disent, bon, ça, je pensais quand même pas être dans les 10 premiers, donc ça va. Bon, on arrive à 20, 25, et là, ça commence à les titiller un peu. Et quand on arrive à 50, 60, il ne reste plus beaucoup de place à prendre. 68, 69, 70. Et vous avez quelqu'un qui a été choqué dans la lecture de cette liste. Alors bien sûr, il n'a pas dit qu'il était choqué. Parce que comme nous sommes très spirituels, quand nous sommes choqués par des choses comme ça, nous nous gardons bien sûr de le dire. Hein? On a quand même une certaine culture. Hein? Et alors, voilà qu'il y en avait deux dans cette liste qui s'appelaient Eldad et Médad. Et ces deux-là étaient, non seulement ils étaient sur la liste des 70, mais ils étaient surtout des rebelles dans leur cœur. Et quand Moïse a dit, les 70, vous êtes convoqués pour venir devant, ces deux-là, bien qu'étant sur la liste, ils ont dit, nous, on ne viendra pas. Sans blague. Toujours donner des ordres, toujours vous faites ci, vous faites ça. Mais est-ce que nous, on n'a pas l'Esprit de Dieu aussi? C'est quand même quelque chose. Nous, on ne vient pas, c'est tout. Donc, ils sont restés derrière leur tente. Et ils étaient devant leur tente en train de faire cuire leur roast beef. Et quand c'est l'heure, quand est arrivée l'heure où le feu de Dieu est descendu, comme ils étaient sur la liste des 70 et que Dieu avait dit « je ferai tomber l'Esprit » sur les 70 dont tu auras fait la liste, ils étaient sur la liste, ils étaient derrière en train de faire leur petit frichti là-bas, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils étaient au fin fond du camp, des rebelles, et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils prophétisaient. Alors bien sûr, quelqu'un est venu rapporter ça à Moïse. Et Moïse avait un aide, un petit jeune homme qui était avec lui, qui s'appelait Josué, et on a rapporté ça à Moïse, on a dit, il y en a deux qui sont sur la liste, Eldad et Médad, ils sont au fin fond du camp là-bas, ils prophétisent. Et Josué était énervé. Ça l'a énervé. Il a dit à Moïse, il a dit, mais il faut les arrêter ceux-là. Alors Moïse lui a posé une bonne question. Moïse a dit à Josué, il a dit, Josué, c'est pour qui que tu es jaloux? C'est pour moi? Mais Moïse savait très bien pour qui Josué était jaloux. Parce que Josué n'était pas dans la liste des 70. Et alors ça l'a un peu énervé quand même, hein, quelque part. Parce qu'il disait, ça c'est quand même formidable, hein? Hein? Ça c'est quand même terrible. Moi je suis là dans le camp, toute la journée. Je ne sors pas de l'enceinte. Je ne me donne pas de divertissement, moi. Je ne vais pas me promener ici et là. Moi, je suis là tout le temps, corvéable à merci, jour et nuit, semaine et dimanche, ça va. Je suis là tout le temps, à tout moment, voilà. Et à la fin, hop, c'est les autres. Et les autres, lesquels autres? Hein? Et c'est eux qui prophétisent? Ça, c'est grave quand même, hein? C'est pour ça qu'il est énervé. Il a dit à Moïse, faut les empêcher. Moïse a rigolé, il lui a dit, Josué, tu es jaloux pour qui? Mais il était jaloux pour lui. Et Moïse, lui, Moïse, le grand Moïse, n'était pas fâché que Dieu ait dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour les mettre sur les 70 autres. Si Moïse avait aimé être le premier, il leur dit, hey, pourquoi de l'esprit qui est sur moi, prendre ton esprit à toi? Ben dis donc, j'ai déjà bien besoin de tout, moi. Hein? Il faut pas m'en enlever. Hein? Moïse, au contraire, a dit à Josué, il lui a dit, écoute, plaise à Dieu que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. Lui, il n'avait pas besoin d'être le premier. Il n'avait pas besoin de défendre une position. Il n'était pas dans la défense d'un monopole. Lui, il n'avait rien à perdre et rien à gagner. Parce que de toute façon, lui, il était en relation avec Dieu. Que les gens le soient ou ne le soient pas, ça ne lui enlevait rien à lui. Moïse ne vivait pas son identité à travers sa fonction. C'est ça le gros problème. Et Josué était encore bien, bien immature sur ce coup. Après, il a fait énormément de progrès. Le Josué qu'on voit après était vraiment un homme comme ça. Mais là, sur ce coup, il a raté. Sur ce coup, il a raté. Il a passé un test, il a raté. Dieu nous fait faire des tests, mais ce sont toujours des tests surprises. Dieu dit jamais, attention, demain il y aura un test. Quand le test arrive, on ne sait pas. On sait juste quand on a raté. C'était un test. Ah ! Alors là, on sait qu'on a raté. J'étais jeune prédicateur, même pas prédicateur, je pense, et dans l'église à Grenoble. Et je conduisais de temps en temps la louange dans le culte. Et un dimanche comme ça, pendant la louange, à un moment, il y avait un peu de confusion dans l'assemblée. Il y en a qui ont prié en même temps. Enfin bon, c'était un peu confus, quoi. Et puis, donc, juste, j'allais dire, bon, ben maintenant, je ne sais plus, enfin, on va reprendre un chant, quelque chose, quoi. Et mon pasteur, qui était assis à côté, à 2-3 mètres, comme ça, s'est levé discrètement. Il vient discrètement et il me dit, reprends. Et il m'a dit ce que je devais faire. Et au moment où il me l'a dit, je dis oui, je sais. Et au moment où j'ai dit oui, je sais, mais ça, personne n'a vu, même peut-être lui, il ne l'a même pas entendu. Personne n'a vu. Oui, sauf Dieu. Et au moment où j'ai dit oui, je sais, le Saint-Esprit m'a parlé. Écoutez, il m'a parlé, je n'ai pas entendu une voix, je n'ai pas vu le ciel s'ouvrir et un truc écrire avec de l'acrylique rouge, hein, mais je sais que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Jean-Marie, tu n'aimes pas les conseils. C'est un test. Quand vous allez passer un test, vous ne savez pas que vous passez un test. C'était un test. Le Saint-Esprit m'a dit, Jean-Marie, tu n'aimes pas les conseils. Alors j'ai continué, on a repris le culte, j'ai continué. Mais après toute la journée, ça me tournait dans la tête. Et toute la journée, je me suis battu avec ça et j'ai essayé de me persuader que j'aimais les conseils. Alors, Non, j'essayais. Alors, je réfléchissais. Mais le frère qui m'a dit ça, il a bien fait, c'est normal. Bien sûr, lui, il ne pouvait pas savoir. Et puis c'est bien d'ailleurs, c'est bien comme il. Enfin, j'ai essayé de me persuader. Le soir, j'étais fatigué. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, je n'aime pas les conseils. je reconnais, je n'aime pas les conseils. Mais si vous voulez, vous pouvez passer. Quand c'est un test, vous pouvez passer à côté. Vous pouvez esquiver. Parce que le Saint-Esprit ne nous parle pas de manière à nous empêcher de tenir compte. Il dit, il suggère. Et puis après, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Si tu as raté le test, tu ne veux pas en tenir compte, tu fais comme tu veux. Simplement, tu louperas le prochain jusqu'à ce que Dieu ait plus envie de t'en faire passer. Et quand tu n'en passeras plus, tu n'en rateras plus parce que tu es hors de la course. Frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses. Dieu nous traite sérieusement comme parlant à des grands garçons et des grandes filles. Dieu nous parle comme à des responsables. Donc, il nous parle de manière à savoir si nous allons tenir compte ou pas tenir compte. Tu aimes travailler en équipe ou tu n'aimes pas? Dieu va nous mettre des tests qui vont nous le démontrer à nous-mêmes. Quelquefois, ça le démontre aussi aux autres, mais pas toujours. Pas toujours. Et ce jour-là, je savais, Dieu me montrait que je n'aime pas travailler en équipe. J'avais des progrès à faire. Et ça, ce sont des choses importantes. Moïse était trop impliqué, Josué était trop impliqué dans ce cadre pour se rendre compte qu'en réalité, sa position à lui était plus importante que ce qui se passait dans les 70 anciens qui pourtant pouvaient devenir des gens capables de soutenir son patron. Mais parce que sa position personnelle lui importait plus, alors il n'était pas capable de voir clair à travers ça. Le travail d'équipe, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Pourquoi ? Parce que naturellement, nous sommes tous égocentriques. Ça ne date pas d'hier. Ce n'est pas seulement français ou latin. C'est un problème, c'est le problème de l'homme. Quand Adam et Ève ont dit qu'ils voulaient devenir comme Dieu, quand chacun a dit « moi, je veux être Dieu », chacun est devenu son idole personnelle. Donc, par définition, tout le monde est entré en compétition les uns avec les autres. C'est un truc auquel personne n'a jamais pu échapper parce que nous descendons tous d'Adam et Ève. Donc, le travail d'équipe n'est pas naturel. Adam et Ève étaient déjà en compétition. Déjà, Adam a commencé à vouloir se défausser de son mauvais choix sur sa femme. C'est la femme, l'autre, là, celle que tu m'as mise entre les mains, là. Il a dit à Dieu. Belle équipe. Ils étaient que deux. Et déjà en compétition. Paul et Barnabas, vous vous rappelez de cette histoire? Et c'est dommage. Vous vous rappelez l'histoire de la séparation de l'équipe, Paul et Barnabas, acte 15, 36. Voilà une belle équipe, une belle équipe de travail. Mais qui, malheureusement, s'est arrêtée de manière trop rapide. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu que cette équipe se casse à ce moment-là. Après avoir fait une fois ensemble, vous vous rappelez, hein, Paul et Barnabas ont fait un premier voyage missionnaire. Ils sont rentrés quelques temps après, verset 36, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugeait plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment, ça c'est un terme littéraire, c'est-à-dire cette dispute fut assez vive pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Voilà une division dans l'œuvre de Dieu. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Alors, on a souvent débattu pour savoir qui avait raison et qui avait tort entre Paul et Barnabas. Et j'étais surpris de voir que, assez souvent, on a mis des reproches sur Paul. On a dit, mais quand même, Paul était quand même un homme un peu dur. Après tout, si quelqu'un fait une erreur, ne faut-il pas lui donner une seconde chance? Ce Paul devait quand même être un homme un peu dur, etc. Et alors, on lui a mis un tas de reproches sur ça. Et finalement, on présente, dans ces cas-là, on présente Barnabas comme quelqu'un quand même de plus humain, plus accessible, plus voilà, etc. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais je veux dire le fond de mon cœur. Le fond de mon cœur, c'est que ce que Paul a fait, dans les mêmes circonstances, eh bien, nous tous, ici présents, nous aurions tous fait exactement la même chose. Parce que, imaginez que vous soyez, parce que là, on réfléchit, nous, on est assis tranquillement ici, et puis tout à l'heure, on rentre chez nous dans une voiture qui fonctionne bien et tranquille, on n'aura besoin de personne sur la route. Mais on oublie que dans le voyage où ils étaient partis, Paul et Barnabas, avec ce Jean surnommé Marc, on oublie de se rappeler qu'ils partaient pour un voyage où ils ne savaient pas où ils allaient, où ils n'auraient ni téléphone, ni carte, ni GPS, ni carte bleue, ni ordinateur, ni capacité de joindre personne par téléphone, qu'ils n'auraient plus aucun secours en main, et que une équipe qui se fabrique comme ça et qui est amputée d'un tiers à la première étape parce qu'il les a quittés en Pamphylie, c'est-à-dire au moment de partir en Pamphylie, c'est-à-dire sur la première étape où ils partaient vraiment à l'étranger. Avant, ils étaient à Chypre. Chypre, c'est là qu'ils sont nés. Donc là, jusque-là, ils n'étaient pas vraiment en mission bien lointaine. Ils étaient chez eux. Mais c'est-à-dire qu'à la première étape où ils devaient partir pour la Pamphylie, Jean, surnommé Marc, a dit « Oh, mais moi, ma maman me manque !» Et il est retourné chez sa mère, enfin, ou je ne sais pas, ou chez quelqu'un. Mais ça veut dire que maintenant, l'équipe était amputée d'un tiers. Imaginez que vous deviez faire quelque chose avec quelqu'un. Vous partez pour porter du matériel au fin fond du Sahara. Vous êtes trois. Vous arrivez au Maroc ou je ne sais pas. La première étape avant de partir dans le désert, votre mécanicien, il se barre. Bon, on va faire sans, quoi. Mais quand 6 mois après, vous mettez sur pied une deuxième expédition, qu'est-ce que tout le monde dit? Oh, prenons celui qui nous a abandonnés l'autre fois. Vous rigolez? Si vous faites ça, vous n'êtes pas bien dans votre tête. On lui donne une seconde chance. Ça veut dire quoi, donner une seconde chance? Est-ce que donner une seconde chance à quelqu'un, c'est lui donner la capacité de refaire la même boulette que l'autre fois? Non! Mais non! Ça, c'est pas du tout pédagogique. C'est le mettre dans des situations où on va pouvoir vérifier s'il a changé. Mais justement, pas dans une situation vraie, pas dans la même. Sinon, ça ne sera pas une vérification, ça sera une deuxième erreur. Et pourquoi Barnabas voulait absolument emmener Jean? Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est son neveu. Ou son cousin, le mot en grec peut avoir les deux sens. En tout cas, c'est son parent. Et Barnabas n'était pas libre parce que c'était son parent. Et Paul était tout simplement quelqu'un de réaliste qui dit, mais attendez, si on fait quelque chose d'ultra dangereux, on est obligé de partir avec des gens qui sont sûrs. Pour bien moins que ça, vous ne donnerez pas à quelqu'un une deuxième chance. Imaginez que vous faites du covoiturage juste pour venir ici à l'église demain matin. Juste du covoiturage pour faire 15 kilomètres. Imaginez que vous êtes venu la semaine dernière avec quelqu'un qui, sur les 15 kilomètres, vous a mis la trouille en voiture. Demain, vous revenez avec lui? Mais non, pas du tout. C'est 15 kilomètres sur autoroute. Je ne parle pas de traverser le désert. À qui les frères ont donné raison? Mais à Paul, c'est écrit. Il faut juste lire. Verset 40, Paul choisit Silas et partit, virgule, recommandé par les frères. Et quand Barnabas est parti, il est parti, virgule, recommandé par personne. Voilà, mais le texte vous dit très bien à qui l'Église a donné raison. Barnabas, il a fait quoi? Eh bien Barnabas, puisqu'il n'était plus dans le plan de Dieu, il n'était plus conduit par Dieu, eh bien, il est reparti où? Eh bien, tout naturellement, il est reparti exactement comme au voyage précédent. Il a refait le même circuit, parce que n'étant plus conduit par Dieu, il ne pouvait plus que faire de la répétition. Mais dans ce nouveau voyage, eh bien, le Seigneur a connu Paul à faire l'inverse. Maintenant, ils sont repartis par le nord, ils ont fait autre chose. Parce que lui, il pouvait être novateur, il était conduit par le Seigneur. Pourquoi est-ce que Barnabas a eu tort? Parce que Barnabas n'a plus tenu compte, à cause de phénomènes émotionnels dans sa petite tête, il n'a plus tenu compte de la structure que Dieu avait donnée à l'équipe. Et dans cette équipe, Dieu avait dit que dans cette équipe, c'est Paul le responsable de l'équipe. C'est écrit, au verset précédent, c'était écrit Paul et ses compagnons. Ce n'est pas écrit Paul et Barnabas et leurs compagnons. Vous me suivez? C'est écrit Paul et ses compagnons. Donc si c'est écrit Paul et ses compagnons, ça veut dire que Barnabas faisait partie des compagnons de Paul. Autrement dit, ça veut dire que cette équipe missionnaire a une tête, qu'elle s'appelle Paul et que c'est lui qui est le chef de cette mission. Voilà. N'en déplaise au tenant de la collégialité pure, mais Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Il y avait dans cette équipe, il y avait une tête, et cette tête, c'était Paul. Et parce que Barnabas n'en a plus tenu compte, parce que ses émotions ont pris le dessus, alors il a oublié ça, il a négligé ça, il est parti. Et ce qui est triste, c'est que c'est la toute dernière mention qu'on ait dans les actes de Barnabas. Je ne dis pas qu'après il n'a pas bien, je ne dis pas qu'il n'ait pas travaillé pour le Seigneur, je ne dis pas qu'il n'a pas continué de servir, tout ça. Merci Seigneur, je suis persuadé que si. C'était un homme extraordinaire, un homme de foi, un homme bon, un homme compatissant, un homme super. Mais justement, Paul avait besoin de quelqu'un comme ça. Alors Dieu lui a donné quelqu'un d'autre. Silas et puis d'autres. Mais pour Barnabas en tout cas, et pour l'équipe, c'est dommage. Parce qu'il n'a plus respecté ce que Dieu a fait dans cette équipe. Ça va, vous me suivez? C'est important de comprendre comment Dieu travaille et c'est important d'admettre les structures que Dieu met en place. Sinon on est toujours dans des rivalités ou dans de l'amertume. Je suis frappé de voir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens dans l'œuvre de Dieu qui sont au niveau de leur qualité de vie intérieure, qui sont en deçà des promesses qu'on a dans la Bible. On a des promesses de joie. On a des promesses de joie, de paix, de vie abondante. Le Seigneur dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma joie. » Et il dit « Je vous donne une vie, mais pas seulement la vie. Pas seulement la vie au sens de la vie éternelle, mais cette vie en abondance. » Et beaucoup de croyants ne vivent pas ce degré de paix, de joie, de satisfaction, de contentement. Vous voyez, le contentement de la foi. Paul parle du contentement de la foi. Sans contenter, des fois, c'est presque un terme, en français courant, c'est un terme presque péjoratif. Bon, ben, on va s'en contenter. Mais quand on le dit comme ça, ça veut dire on subit. On subit, on fait avec, c'est pas terrible, mais c'est comme ça, quoi. Alors, le contentement de la foi, c'est pas ça. C'est pas bon, bah écoutez, oui, on a la foi, quoi. Et puis surtout que le Seigneur vienne vite, parce qu'alors. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont. En fait, leur vie chrétienne, ils sont assis dans l'église, bien sûr, mais ils sont surtout assis dans la salle d'attente. Ils sont dans la salle d'attente, et comme chez certains médecins qui ne prennent pas de rendez-vous et qui vous font attendre pendant des heures et des heures, on est là, on est assis, on ne sait pas quand tout d'un coup on va être appelé, quoi. De temps en temps, la porte s'ouvre. Monsieur Attel. Alors, il y en a un qui se précipite, les autres. Pff, voilà. Alors, est-ce qu'on est juste en train d'attendre que le Seigneur vienne nous chercher ou que tout d'un coup l'enlèvement, pour ceux qui croient à l'enlèvement? Mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on a une vraie joie, une vraie satisfaction. Est-ce qu'on est en train de dire, que la vie n'est pas difficile. Bien sûr, la vie est difficile. Quand Paul l'a dit, est-ce que vous pensez que son époque était une époque facile? C'était une époque difficile. Vivre chrétien au temps de l'Empire romain, c'est pas un cadeau, hein? C'était difficile. Il avait des difficultés avec les païens, des difficultés avec les juifs, des difficultés avec même avec les chrétiens, ceux qui étaient d'origine juive, qui étaient légalistes. Bref, à la fin, quand tu fais le compte, tu dis, ben dis donc, hein? C'était vraiment vraiment difficile. Des conditions, surtout pour Paul, mais des conditions de vie, même matériellement, il dit, dans la faim, la soif, le froid, le dénuement, etc., les jeûnes multipliés, les voyages difficiles, on ne voyageait pas toujours en première classe. Tout était difficile. Et Paul dit, et nous sommes toujours joyeux. Tu dis, mince alors, ce gaillard-là, il savait ce que c'est que le contentement de la foi. Mais j'ai des fois, j'ai le sentiment que beaucoup de croyants trimballent trop des arrière-plans de frustration, des arrière-plans d'insatisfaction, de manque. Et souvent, c'est lié à ces questions de valorisation, ces questions de valorisation, ces questions de place, ces questions de toutes ces questions qui on prend pas attention à moi, on prend pas soin de moi. L'église n'est pas ceci, l'église n'est pas cela, on ne m'a pas demandé mon avis, etc. Et puis, je n'ai pas pu m'exprimer, je ne peux pas me réaliser dans l'église et toutes ces choses. Et toutes ces choses, bien sûr, elles peuvent, l'origine de ces malaises peut venir de l'extérieur de nous, parce que malheureusement, c'est vrai que malheureusement, nos églises, nos structures ne sont pas idéales et qu'elles génèrent elles-mêmes des fois... malheureusement, des fois, des erreurs. Mais beaucoup aussi de ces problèmes viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que j'aime parler de papa Jean-Peter Schmitt, le fondateur de l'Église à Mulhouse. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur fondateur de l'Église dans laquelle je suis que je veux lui tresser des louanges. Mais voilà un homme qui m'a... qui, à moi et à tout le monde, qui nous a laissé un exemple tout à fait spécial, quoi. Voilà un homme qui a extrêmement agi, il a 87 ans, il travaille pour le Seigneur depuis 50 ans, 60 ans, je ne sais pas combien, ou 60, et qui a eu aussi beaucoup de difficultés. Souvent, il a aidé des tas de gens, et puis il s'est fait rouler dans la farine, même s'il faut beaucoup de farine, mais des ennuis, des trahisons, des difficultés, il y en a eu plein. Mais c'est un homme qui est toujours content, pas content de lui, content du Seigneur, le contentement de la foi. Parce que Jean n'a pas d'ambition dans son service. Il n'a pas d'ambition pour lui-même. Ce que être accepté, pas accepté, honoré, pas honoré, valorisé, pas valorisé. Mais ça, c'est des notions qui ne lui viennent même pas à l'idée. Ça ne lui vient même pas à l'idée. Un jour, on était plus fâchés que lui. On était un lundi matin comme ça. Alors lui, il vient pas de très bonne heure. Il vient quand il a envie. Il reste avec nous un moment. Et puis après, il s'en va. Il dit, oh, Suzanne m'attend pour manger. Alors il s'en va. Mais il est avec nous un moment, quoi. Et un jour, un lundi matin, on a débattu, enfin 5 minutes, mais parce que quelqu'un avait appris que l'épouse d'un pasteur pourtant connu avait raconté sur Jean-Peter Schmitt des bêtises, puis des bêtises vraiment graves, aussi graves qu'absurdes, quoi. Alors nous, on était énervés. Comment est-ce qu'on peut dire sur Jean inventer des conneries pareilles, quoi. Enfin, on était énervés. Alors lui, il nous écoutait. Il a dit, ah bon? Et là, ils ont dit quoi? Mais je voyais qu'ils s'en fichaient royalement. Il n'y a que nous qui étions énervés, mais lui, non. Alors, on a décidé quand même qu'on allait faire une réponse, on a fait une lettre, tout ça. 3 semaines après, on a reparlé de ça à propos de la lettre qu'on avait. Et alors, on lui dit, oui, Jean. Il dit, mais c'était quoi déjà? Il avait oublié. Non, mais il avait oublié. Et il a une excellente mémoire, hein? Il a une excellente mémoire, il se rappelle très très bien de tout. Mais ça, pour lui, ça vaut même pas la peine. Non, il se rappelait plus. Ah bon, qu'avait dit quoi? Oh, j'ai dit à Sam, écoute, ton père, il n'est pas vexable. Il n'est pas vexable. Voilà quelqu'un qui peut... Et donc, vous mettez des gens comme ça. Si une équipe est composée que de gens comme ça, mais vous ne pouvez pas imaginer comment il pourrait y avoir un problème. Il ne peut pas y en avoir. Parce que les racines de tous les problèmes charnels n'existent pas. Comme ils n'existent pas, on ne peut que juste bien s'entendre. On peut juste bien travailler. Alors, bien sûr, après, il faudra bien distribuer les tâches, les fonctions, etc. Je suis d'accord. Mais tout ce côté-là n'existera pas. Et donc, on peut arriver à une vraie complémentarité, une vraie progression entre nous. Frères et sœurs, il faut un vrai respect au sein de nos équipes. C'est des décisions aussi. Les décisions de ne faire que se soutenir. Les décisions de ne pas accepter des critiques, des médisances. Je ne dis pas qu'il faut se voiler la face. On peut tous avoir dans une équipe, on peut avoir un collaborateur qui à un moment n'est pas dans le coup pour différentes raisons. Donc, on ne va pas faire semblant on va pas se faire semblant, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il est parfait. Non. Mais on ne va pas accepter d'écouter des critiques, des calomnies, on ne va pas accepter des comparaisons, on ne va pas accepter des choses comme ça. Et automatiquement, on va bloquer ces choses-là. Et si on a besoin de se parler, on se parle directement. Vous savez, dès qu'on est dans une équipe, ça va très vite. Moi, peut-être je prêche un mardi soir, mais j'ai quelqu'un qui vient me voir à la fin. Frère, oh, merci pour cette prédication. Vous savez, vraiment ça, j'allais dire vraiment, j'avais jamais entendu ça. Pourtant, je viens ici depuis longtemps. Et voyez le diable, et comment ça... Hein? Heureusement que tu es là sans toi, tu sais. Hein, voilà. Mais si vous ne faites pas attention, si on ne fait pas attention à ces choses-là, parce que la chair aime ça. La chair aime ça. Si on ne fait pas attention, on ne commence pas tout de suite à bloquer ces choses-là pour soi-même et pour les gens. Eh bien, tout de suite, les problèmes commencent à grandir. On raconte, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais enfin, elle est plaisante, d'un monsieur qui est un pasteur qui prêchait. Et puis, il avait prêché avec zèle, enthousiasme. Il n'est pas encore descendu de l'estrade qu'une dame vient le voir, lui dit « Oh, pasteur, je voulais tellement vous féliciter de votre prédication. Je voulais vraiment absolument être la première à vous féliciter. » Alors, le monsieur lui dit « Ah, vous n'êtes pas la première. » Et la dame dit « Ben, si, quand même, je suis la première à être montée. » Il dit « Non, le diable me l'a dit juste avant vous. » Il nous faut être conscients. Alors, je ne sais pas si l'histoire est vraie, hein. Mais il nous faut être conscient et il nous faut travailler. Construire une équipe, c'est pas évident. On a des caractères différents, on a des approches différentes, des formes de personnalité différentes, hein, entre Jean, Samuel, Claude, Christian, moi-même, Bertrand. On est très différents et on a des approches différentes. Une vraie église et une vraie équipe, c'est pas des clones. Le but, c'est pas d'être tous pareils. Dans certaines églises, on a essayé de faire de l'unité, mais c'est de l'unité comme des clones. C'est-à-dire que comme si l'église parfaite, c'était l'église où tout le monde est pareil. Mais ça, c'est une collection de carrelage, mais c'est pas une église. On a le droit et c'est normal, c'est bien d'être différent, c'est bien de se compléter. Moi, je réagis pas comme Claude, comme Christian. On est différent. Et puis on se prend pas au sérieux. Un des aspects du climat de l'église à Mulhouse, c'est qu'on rigole beaucoup. Vraiment, nous, on est une église où on rigole. Et entre nous, on rigole. Et les gens sont des fois surpris, parce qu'ils sont surpris qu'on rigole tant. Mais on rigole sérieusement. Non, On sait quand on peut, on sait quand on peut rigoler, et puis on est sérieux. Et si vous voyez la somme, quand même, je peux dire quand même honnêtement, la somme de travail qui se fait dans cette église, hein, écoutez, c'est quand même qu'il y a des gens qui travaillent. Hein. Mais on se prend pas la tête, on se prend pas au sérieux, on n'est pas. Et nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et on a besoin de s'aider, de se soutenir, on a besoin de s'encourager. Une autre notion qui est très importante, hein, et où là, je ne m'y attendais pas et où j'ai été heureusement surpris, c'est de découvrir et de vivre dans cette équipe et dans l'Église en général, dans le climat de l'Église en général à Mulhouse, c'est la puissance de l'encouragement. C'est que honnêtement, c'est quelque chose que moi-même, là, je dis franchement que j'étais en déficit. J'étais en déficit. Pas forcément en déficit d'être encouragé, mais en déficit de savoir encourager les autres. Et c'est très important. Le ministère de l'encouragement, c'est important. On a quelquefois spiritualisé dans les églises, hein. On a tellement eu peur de l'orgueil, mais d'une mauvaise façon. On en a peur dans certains domaines, puis dans d'autres, on couvre. Mais des fois, on avait, comme si on avait peur que encourager les gens, ça soit leur donner de devenir orgueilleux. Mais c'est exactement le contraire. Si quelqu'un qui fait quelque chose n'est pas encouragé, eh bien, du coup, c'est là qu'il va devoir compenser. C'est maintenant parce qu'il est frustré. C'est maintenant qu'il va chercher d'autres formes d'encouragement. Il va chercher d'autres formes de valorisation. Ça lui fait plus de mal. Mais si vous l'encouragez réellement, eh bien, il est encouragé. Eh bien, sainement, je veux dire, eh bien, ça lui fait beaucoup plus de bien. Bien sûr, c'est sa responsabilité. Tout le monde reste responsable toute sa vie de grandir ou de ne pas grandir dans l'humilité. OK, d'accord. Et personne ne peut le faire à la place des autres. Mais nous encourager les uns les autres, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux. Dans certaines familles, je veux dire des familles, pas d'église, mais des familles, dans certaines familles, l'encouragement n'existe pratiquement pas. Il n'y a que les reproches si ça ne marche pas. Alors là, il y a des reproches. Et quand il n'y a pas de reproches, chacun doit comprendre que c'est un encouragement. Mais non, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous avez des gamins, ils ramènent des bulletins de notes, il n'y a que des 18, 19. Le père regarde. 17, c'est quoi ce 17? Mais ça vous décourage de faire bien. Quand le gamin il va avoir 15 ans, à l'époque de où maintenant où on conteste tout, il va dire tiens, la prochaine fois, je vais avoir un 5, on va voir, comme ça on va parler. Mais dans l'église, c'est pareil. Bien sûr, vous allez me dire, mais il faut qu'on fasse toute chose pour le Seigneur, sans nous. Oh, d'accord, ça c'est l'idéal de la maturité. Mais pour devenir mûr idéalement, c'est à chacun de le faire. C'est pas à nous de frustrer les gens pour qu'ils deviennent mûrs. Notre but, c'est d'encourager les gens. Plus on encourage quelqu'un, plus il a envie de bien faire. Mais bien sûr, il faut le faire honnêtement. Encourager, c'est pas flatter, c'est pas raconter si l'autre il a tout raté. Il faut pas lui dire bravo, c'était super. Ça, c'est pas un encouragement, c'est un mensonge. Ok. Donc on va rester vrai. Mais tout en restant vrai, c'est super de s'encourager. Moi, au début que je prêchais, et si quelqu'un me disait que c'était bien, c'est comme si j'étais gêné. C'était comme si j'étais gêné. Oh non, vous savez. Et puis un jour, je me suis dit, mais Jean-Marie, mais t'es malade ou quoi? Maintenant, je dis, mais merci, ça m'encourage, voilà. Ben voilà, ça m'encourage. Si ça m'encourage, je ne vais pas dire que ça ne m'encourage pas. Si ça m'encourage, si vous voulez m'encourager, je prends. Hein. Mais, non, mais... Voyez, on n'était pas toujours très réaliste. On n'est pas toujours très réaliste. Alors que, et la Bible dit que chacun fasse aux autres ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui. Mais si nous-mêmes on fait quelque chose, est-ce qu'on aime plutôt être encouragé ou pas? Oui, Donc si on aime être encouragé, alors encourageons les autres. Et quand on est dans un climat où tout le monde s'encourage, eh bien tout le monde est encouragé. Et tout le monde a envie de faire mieux. Dès qu'on trouve quelque chose de bien chez quelqu'un, hop, il faut l'encourager. Mais pas forcément avec, tout de suite en mettant une virgule, mais quand même tu pourrais. Non ! Il y a des moments où on peut la rajouter les « mais tu pourrais », mais pas toujours. Sinon, c'est des encouragements qui deviennent pires que les autres. Quand quelqu'un vient t'encourager, que tu sais qu'il y aura 3 mais derrière, tu dis « ça va, c'est bon ». Non, je suis déjà découragé, merci. Non, même dans les couples, il y avait dans la culture, dans une certaine culture évangélique, les épouses n'osaient pas jamais dire à leur mari un mot d'encouragement sur leur ministère. Ils allaient devenir orgueilleux. Donc, ils arrivaient à la maison, même s'il y avait eu le feu, que le Saint-Esprit était descendu, l'épouse disait rien. Si jamais il avait l'air de quitter quelque chose, ou attention, hein, tu sais, l'orgueil, voilà. Mais lol. Mais qu'est-ce que ça fait après? Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que voilà des maris qui vont être très attentifs aux encouragements que d'autres sœurs vont leur donner. Mais oui, mais exactement. Mais si votre femme ne vous encourage pas, vous devenez sensible aux encouragements des autres. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Des enfants qui ne sont jamais encouragés par leurs parents, deviennent sensibles aux encouragements de la bande. Des ados qui ne sont jamais encouragés par leurs parents deviennent accros de leur bande de copains, parce que dans leur bande de copains, on va leur dire des choses qui les flattent. Mais c'est la vérité. Une jeune fille qui a 15 ans, 17 ans, qui se pomponne, qui se fait jolie, etc., si ce n'est pas son père qui lui dit qu'elle est jolie, elle a besoin que les gars du lycée lui disent. Mais si son papa tous les jours lui dit « tu es jolie ma fifi », alors elle sait qu'elle l'est, elle est consciente de son identité, elle n'a plus besoin de compenser ailleurs. L'encouragement, c'est un puissant ministère. Un puissant ministère. Combien de fois Dieu dans la Bible, combien de fois Dieu nous dit « prends courage ». Quand Dieu dit « prends courage », il le dit à des gens chez qui il discerne qu'ils en manquent. Tu ne dis pas « prends courage » à quelqu'un qui en est rempli. Si Dieu dit « prends courage », sinon, si souvent, parce qu'il sait qu'on est fragile, y compris ceux qui ont l'air les plus solides, mais les plus solides ne sont pas toujours les plus solides. C'est ceux qui en ont l'air. Mais il faut que nous encouragions les uns les autres. Et j'étais étonné en arrivant à Mulhouse que facilement quelqu'un m'encourage. Ça, j'ai dit « ah, ça fait plaisir ». Après, je me suis dit « mais je pourrais peut-être aussi encourager les autres ». Alors je me suis mis à, je ne sais pas que je ne le faisais pas, mais honnêtement, je me suis rendu compte que peut-être je n'étais pas assez encourageant. Alors on peut se donner du courage. Ça fait combien de temps que tu as encouragé quelqu'un? Bon, aujourd'hui, tu n'as pas eu l'occasion, d'accord. Mais hier, ça ne s'est pas présenté. Ah. Bon, la semaine dernière. Écoute, s'il faut remonter à plusieurs années, il y a quand même un problème, hein. Donc, on va s'encourager, se respecter, se faire du bien, s'honorer, se valoriser, être honnête les uns avec les autres, se parler selon la vérité. Voilà, ça, c'est une vraie équipe. OK? Allez, on va prier pour ça. Fermez vos yeux. Dieu Tout-Puissant, tu sais combien nous sommes... Malgré quelquefois nos apparences solides, combien nous sommes quelquefois fragiles, sensibles. Hein. Seigneur, toi tu nous encourages hein, et nous voulons nous encourager les uns les autres. Hein. Je te prie vraiment que pour nous puissions chacun nous découvrir vraiment une vie d'équipe pour que ce corps de Christ magnifique dans lequel tu nous as greffé, cette famille de Dieu, soit concrètement dans notre vie. Une réalité, que nous puissions mettre notre identité dans le bien de nos frères, dans le bien de nos sœurs, dans le bien de cette de ce réseau, de cette équipe, ces équipes que nous faisons. Garde-nous, Seigneur, de fonctionner pour nous-mêmes. Garde-nous de fonctionner de manière égocentrique. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que chaque équipe de responsables, de ministères, dans les églises que nous représentons ce soir, dans les œuvres chrétiennes, que ces équipes puissent aujourd'hui être particulièrement encore soudées ensemble, fondues ensemble, que les liens du Saint-Esprit puissent vraiment être solidifiés, cimentés, que toute adversité soit reconnue, identifiée, que la lumière du Christ, amène à la lumière, hein, les ferments qui empêchent cette vraie unité, pour que nous puissions la vivre et qu'elle soit un modèle pour nos églises. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci. Merci.